Une vie, une œuvre. Merci de nous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui à Guy Debord, 1931-1994. Il est des expressions qui connaissent une fortune extraordinaire car elles sont claires, simples, sonnent comme un slogan et surtout viennent percuter un moment de l'histoire de manière tellement forte qu'elles semblent fournir, clé en main pourrait-on dire, une explication du monde. En intitulant « La société du spectacle », son essai publié seulement 6 mois avant mai 68, Guy Debord a percuté la réalité et semble avoir saisi le développement qu'allait prendre le monde occidental avec cette mise en scène permanente de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, y compris bien sûr de soi-même, phénomène qui devait s'accélérer dans les années 2000 avec, comme avatar, la télé-réalité puis les réseaux sociaux. Mais si cette expression semble particulièrement juste, on se demande aussi si elle ne relève pas plus d'une formidable intuition que d'une théorie réellement structurée. Telle est l'ambiguïté de Debord, dont la Bibliothèque nationale de France présente en ce moment les archives et qu'a exploré pour nous Thibaut Henton dans une émission réalisée aujourd'hui par Isabelle Huel.
Avertissement. L'enchaînement des séquences qui va suivre risque de troubler la tranquillité des auditeurs. Or...
Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode.
Le détail des éléments préfabriqués qui composent cet enchaînement est cependant disponible en ligne. Mais pour l'heure, suivez cette voie. C'est l'histoire d'un individu singulier, d'un héros suicidé, acteur enragé d'une grande fête, d'une révolte artistique et littéraire, au sein d'une culture séparée, à détourner. C'est l'histoire d'un stratège, à l'assaut de la société spectaculaire marchande, contre ses agents, contre sa puissance intégratrice. 1968, elle explose. La fin, jouir de la vie quotidienne. Et maintenant...
On veut de nouveaux sons, de nouveaux sons, de nouveaux sons.
Camarade, à quoi penses-tu ?
À Dorothy.
Et à l'archevêque qui l'a abattu.
C'est l'histoire d'un individu singulier.
Entrefouille, merde. Je vais t'enfiler, moi, du biscuit sur...
Guy Ernest Debord.
Pour ta feuille de chou. Ça va infuser les potins, les ragots. C'est ma profession, moi, de témoigner. Mes témoignages, c'est pas de la taupe.
Mais de quoi on parle?
Ben, je vais te dire de quoi on parle. Où vous en êtes avec la nécro de...
Guy Ernest.
Vous bossez un peu?
On vient de s'y mettre, mais on a déjà quelques petites idées.
On va interroger des tas de gens, tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont haï, bref, tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont connu. Ça fait déjà du boulot.
On a l'impression qu'à peu près tout le monde hérite de Guy Debord, c'est-à-dire TF1 hérite de Guy Debord, Le Monde est un journal debordien, enfin tout est debordien, si vous voulez, aujourd'hui. En réalité, les choses, évidemment, sont plus complexes. Je crois qu'on ne peut pas hériter de Guy Debord. Je pense que Guy Debord n'a pas donné de méthode. Il a dit « Faites de votre vie une œuvre d'art et démerdez-vous ». Il n'y a pas de règle, en réalité. Alors tout le monde peut prétendre hériter de Guy Debord. Moi, je crois pas qu'aujourd'hui les hackers héritent de Guy Debord. Je crois pas que les altermondialistes ou les indignés héritent de Guy Debord. Je crois pas du tout que les militants d'extrême gauche héritent de Guy Debord. Je crois que véritablement personne n'hérite de Guy Debord.
Un anti-artiste, quelqu'un qui aura composé une œuvre au second degré, une œuvre de collage, mais qui lui-même aura écrit finalement. Un ensemble de textes relativement modestes. Peu de choses sont de sa main, même dans ses œuvres, dont les films ne comportent presque aucune image qu'il aura tournée lui-même. Quelques œuvres graphiques, mais qui sont des collages, là aussi, ou bien de simples inscriptions. Donc, un anti-artiste, d'une certaine façon. Quelqu'un aussi qui aura eu l'ambition d'être entretenu. Ne travaillez jamais, il faut bien trouver des moyens d'existence. On les trouve... en étant, en vivant au crochet des femmes qui partagent votre vie. Ça a été le cas de Michel Bernstein.
Et à partir du moment où j'ai été bien payé, eh bien, c'est vrai, de toute façon, on séparait mon moi en trois. Un tiers pour lui, un tiers pour moi, un tiers pour la maison, pour les factures. Et ça a continué même après, quand on ne vivait plus ensemble, juste à ce que les Bovici lui donnent des sous pour la société du spectacle. Parce que c'est pas parce que je quitte un garçon que je vais le réduire à la... À la famine.
De riches mécènes qui viennent financer vos activités. Ça a été le cas de Gianfranco Sanguinetti à la fin de l'aventure de l'international situationniste et puis ensuite de Gérard Lebovici. Et quelqu'un qui cherche à fasciner les autres, à avoir une emprise sur eux par un charme qu'il exerce, et avec une finalité subversive, d'une certaine façon.
Mais en même temps, je dois dire que quand on avait 25 ou 30 ans, si quelqu'un nous avait dit « Votre avenir, c'est une belle réussite, vous serez trésor national et vous aurez une très belle exposition à la Bibliothèque nationale », j'ai l'impression qu'on l'aurait battu. On était quand même beaucoup plus ambitieux que ça.
Le souvenir de Rembrandt, ce sont les tableaux dans les musées. Alors nous, nous avons beaucoup d'orgueil, mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées.
Pour comprendre comment il a élaboré ses livres, ses films même, il faut se dire que c'est quelqu'un qui, dans tout ce qu'il lit, est en fait à la recherche de lui-même. C'est-à-dire qu'il lit des ouvrages classiques, des pièces de Shakespeare, les Essais de Montaigne, les Mémoires du cardinal de Retz. Il va au cinéma, il va voir de grands films comme Les Enfants du Paradis, comme Orphée, comme Le Troisième Homme, ou comme des films oubliés, des films de série B. Et à chaque fois, la question qui sous-tend sa réception de ces œuvres, c'est « mais en quoi est-ce que ça parle de moi ?» ou « en quoi est-ce que je peux amener ça à renvoyer une image de moi-même, de ma propre histoire, de ce que je suis, de ce que je pense ?» Alors, il le fait souvent avec humour, et dans le processus du détournement, il y a volontiers cet effet de décalage. J'ai en tête, dans In Giro Mimus Nocte, en 78, il y a un moment de transition où il annonce qu'il va parler de lui-même, et on voit un extrait d'un vieux Zorro, où Zorro est en mauvaise posture, quelqu'un s'apprête à lui arracher son masque en disant « Mais au fond, Zorro, qui êtes-vous vraiment ?» Et donc, cette espèce d'humour de second degré par rapport à ce qu'il détourne est souvent présent. Mais malgré tout, le phénomène d'identification reste quelque chose de très fort. Et on sent bien que quand il détourne des images de Marcel Herrand incarnant Lassner dans Les Enfants du Paradis, il y a une identification, une sympathie, une affection qui ne sont pas marquées par une distance ironique ou un éloignement qui relèverait du second degré.
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François ?
Non, mon ange. Voyez, aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garange, je prépare quelque chose d'extraordinaire.
Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne l'ont pas pardonné. Belle jeunesse, vraiment.
Mais quelle prodigieuse destinée.
Je n'ai pas de vanité. Ce n'est que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation, ma route est toute tracée, mon chemin est tout droit. Et je marcherai la tête haute. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud.
Vous avez raison, Pierre-François. Faut toujours écouter ses parents.
Dans un de ses livres, il dit qu'il est né ruiné. Alors, c'est assez complexe, parce qu'en fait, il est d'une famille recomposée, décomposée, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. C'est vrai que lorsqu'il était enfant, grâce à l'argent de sa mère, son père, qui est décédé lorsqu'il avait 4 ans, possédait une usine de chaussures plutôt luxueuse. C'était un homme qui avait des sous, mais enfin, ça n'a pas fonctionné. Il était malade, il est décédé, et il y a eu une période où Debord a été, la famille a été dans une certaine disette, et puis la mère de Guy Debord a connu plusieurs hommes dans sa vie, un qui était, je crois, un moniteur d'auto-école, et puis un autre qui était notaire, et ça a été décisif, parce que cet homme était astucieux. Il s'appelait Labaste, et Charles Labaste, et c'est un homme qui a eu de l'intelligence, si vous voulez. Il vivait à Grasse, et il s'est déplacé vers la Riviera, et il a eu l'intelligence après la guerre d'être le notaire de la Riviera, le notaire qui signait tous les achats de résidences extraordinaires. C'était le beau-père de Guy Debord. Ce qui fait que Guy Debord a vécu véritablement à ce moment-là dans un milieu très aisé. Mais c'était une famille étrange, parce que c'est une famille où on ne se jugeait pas. Il n'y avait pas beaucoup de limites. Et il était dans cette... Il y avait une fratrie et il était le préféré. Il était celui, le petit roi en quelque sorte, l'enfant roi. Et donc il a grandi avec cette espèce d'impression qu'on pouvait toute sa vie vivre sans temps mort et jouir sans entrave.
Quoi d'autre ?
Ah, et puis c'est pas tout. Oui, on a pensé qu'on devrait expliquer ces dernières paroles.
Monde de merde. Vous avez raison.
Ah oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrés.
L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est « monde de merde ». Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Merci, c'est pas facile à trouver.
C'est sûrement un nom. Si c'est une femme, je veux savoir quelle femme. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course.
Nous, on pensait que ça pouvait être un traîneau.
C'est une pause, voilà, c'est une pause qui est assez cool à prendre, quoi. Être situ, c'est un peu la classe, quoi. Et dans, de toute façon, dans les écoles d'art, évidemment, les situationnistes, c'était un courant un peu à part. C'était une manière de, d'y toucher sans y toucher. C'était une manière de faire partie du système sans, en, en le dénonçant complètement. C'était une partie de, voilà, faire partie du milieu de l'art, mais en même temps, en le méprisant. Si vous voulez, voilà. C'est tout, tout le paradoxe et l'ambiguïté de à Canal+, Chabat était très... enfin, lui, il parlait des situs, il disait, moi, j'étais situ, tout ça, mais avec le sourire, hein, c'est pas... mais sinon, non, pas grand monde connaissait les situationnistes, non. À Canal+, c'était pas tellement le... C'est pas le temple situationniste non plus. Hein.
D'un héros suicidé.
Tout le monde peut être dans l'héritage de Debord, à commencer par les programmes de TF1 à ce moment-là, vous voyez.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce journal, le suicide de l'écrivain situationniste Guy Debord. La mort de l'écrivain Guy Debord, le père du situationnisme qui avait 62 ans, s'est suicidé dans son domaine de Haute-Loire. C'était notamment l'auteur de La Société du spectacle. Et la dernière phrase de l'un de ses autres livres, qui s'appelle Panégyrique, était celle-ci. Ici, l'auteur arrête son histoire véritable. Pardonnez-lui ses fautes. Et puis Billy Bridge, qui était le créateur du Madison, a été enterré aujourd'hui, inhumé au cimetière de Bagneux. Il avait 48 ans.
Et vous êtes allé à l'enterrement en 94?
Il n'y a pas eu d'enterrement.
Je sais qu'il a répondu. Il avait demandé à ce qu'on réponde.
Alice, Alice et le frère d'Alice sont allés jeter les cendres au bout de...
À la pointe du Vert-Galant, à Paris. Et ce lieu, il y est attaché parce que c'était un des lieux de promenade des jeunes lettristes dans les années 50, mais c'est aussi, sur un plan historique, le lieu où avait été édifié le bûcher du grand maître des Templiers. Et les Templiers sont présents aussi dans Panégyrique. La règle de l'ordre du Temple est citée quelquefois, et donc ça participe encore sans doute de cette mythologie personnelle.
Moi, j'ai appris, j'étais en Angleterre. C'est une amie à moi de Libé qui me l'a dit avant les autres parce qu'elle avait vu la dépêche de l'AFP, qui m'a dit, tu sais, Guy Debord vient de se suicider. Et j'ai répondu, ah merde alors. Mais ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. Après, je disais, oh maintenant, il doit être arrivé au Havre.
Et vous, ça vous a étonné, ce suicide?
Oui, beaucoup. Alice aussi, d'une certaine façon. Parce que je pensais qu'il se suiciderait, comme la plupart des gens, le jour de son anniversaire. Alors, je pensais d'ailleurs qu'il se suiciderait le jour de ses 60 ans. Il en avait beaucoup parlé, beaucoup dit, etc. Puis le gendre de Marx, enfin, nous connaissons tout ça. Donc, le jour de ses 60 ans, j'ai vraiment regardé les journaux pour voir si Guy s'était suicidé. Non. Alors, le jour de ses 61 ans, j'ai regardé si Guy s'était suicidé. Et avant ses 62 et avant ses 63 ans, voilà qu'il se suicide un jour qui n'est pas son anniversaire. Mais on peut dire qu'il s'est euthanasié plutôt, parce que depuis j'ai appris qu'il souffrait abominablement de sa polynéphrite, de sa goutte.
Et alors cette date du 30 novembre?
Ben non, rien. Pour moi c'est rien, pour Alice non plus.
C'est si d'action dans les actualités du jour.
C'est quoi si d'action?
C'est la journée de lutte mondiale contre le sida.
Ah, vous m'en direz tant.
Et comme c'est quelque chose qui est évoqué dans Debord, son art et son temps.
Oui.
Les act-up, là.
Oui, non, je pense que ça ils s'en foutent royalement. Oui.
Aujourd'hui, sur la fin de sa vie,
aujourd'hui c'est le jour de quoi?
Aujourd'hui?
Oui, écoutez.
Maintenant, il y a
la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des pères, la sidaction, la fête des voisins, la fête de la bonne entente cordiale, la fête du livre, la fête de la musique. Je doute qu'aujourd'hui, ce ne soit pas la fête de quelque chose.
Debord se lève le matin et se dit, aujourd'hui, je ne me suiciderai pas.
Pas vraiment une surprise, de toute façon. Je ne sais pas comment il a vraiment vécu la période après la dissolution de l'international situationniste. Je ne sais pas d'ailleurs si l'international situationniste existait avant qu'on la dissolve.
Chacun buvait quotidiennement plus de verres qu'un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la durée d'une grève sauvage.
Acteur enragé d'une grande fête.
On était tous des ivrognes sérieux, mais dans un grand travail qui a donné lieu à l'apparition du premier numéro de l'IS. Il faut dire que la chose était préparée un peu par Guy Debord.
Et un beau jour, j'étais allé avec quelques camarades et puis on dépouillait le courrier et je tombe sur le numéro 3 de l'IS. Alors bon, vous voyez la revue internationale situationniste, avoir ce titre invraisemblable, la couverture métallisée, les bandes dessinées détournées, etc. Des photographies qui représentaient une ville imaginaire. Bon, moi j'ai commencé à regarder ça, j'ai été tout de suite séduit et je me suis dit, il faut absolument qu'on entre en rapport avec ces gens-là. Je veux dire, c'est une aventure qui mène, qui converge vers la nôtre. Socialisme en Barbarie. Et donc, j'ai écrit à l'adresse qu'il y avait là et en proposant un rendez-vous. Alors, on s'est donné rendez-vous dans un bistrot de la montagne Sainte-Geneviève. Là. Et on avait chacun à la main, chacun sa revue, et pour se reconnaître. Et on a commencé comme ça une conversation avec l'objectif de faire ça de manière très sérieuse. Et puis, qui a abouti à ce texte qu'on a fait ensemble. Enfin bon. Pendant toute une période, on s'envoyait toutes les semaines, formellement, disons. Et puis, comme je vous le disais, en dehors de ça, très souvent, soit après nos réunions, nos conférences au sommet extrêmement sérieuses dans le bistrot, on partait à se balader dans Paris et on déambulait. Des fois, ça se finissait à la place de Clairvaux, chez lui, ou bien chez moi. Je me rappelle un soir, on avait acheté une ou deux bouteilles de Beaujolais dans un bistrot pour que on soit pas à sec dans ma chambre de bonne. Et je crois que d'abord il avait été assez effaré de voir l'endroit où j'habitais. Il n'y avait rien d'héroïque, mais bon, qui était évidemment extrêmement succinct.
Ils boivent. Les miens, ils boivent tout le temps. Mais ils boivent bien.
Beaucoup d'autres aussi.
Ils boivent bien. Et puis ils boivent avec élégance, après ils ne sont pas très ivres.
On passait aussi du temps à bavarder avec Michel Bernstein, qui était l'ami de Debord à l'époque. Mais. Alors, et Michel Bernstein avait. Elle adorait jouer les petites les combines, les petites dresser les uns contre les autres, etc. Bon, qui faisait partie du jeu. Parce que l'idée du jeu était évidemment centrale et à mon avis, elle est restée centrale dans la pratique de Debord jusqu'à la fin. Bon, c'était un jeu qui se voulait très sérieux, mais qui était quand même ce qu'on appelait à l'époque le jeu du monde. Et voilà, bon, on jouait au monde.
Let's drink to friendship.
D'un coup, il répondait plus au téléphone. C'était Michel Bernstein qui répondait. Ah ben non, Guy, attends, il n'est pas là. Je te le passerai tout plus tard. Tu le rappelleras. Enfin bon, c'était d'un coup évasif comme ça. Bon ben viens, passe ce soir. Viens, on mangera quelque chose ensemble, tout ça. Et puis alors là, c'est là que j'ai compris parce que. Ils avaient acheté sur le boulevard Sébastopol dans du poulet frites qui était assez graillonneux et tout ça. Et alors là, je me suis dit, ça c'est une disgrâce parce que bon, évidemment, Debord avait une certaine révérence pour la bonne cuisine, les bons vins, etc. etc. On était les seigneurs, n'est-ce pas? Donc le meilleur de ce que cette société peut produire, c'est pour nous.
Daniel Blanchard a écrit partout et dit que Guy avait rompu avec lui parce que je ne pouvais pas le blairer. Alors, Daniel Blanchard donne comme raison que je l'aurais nourri d'un poulet rôti. boulevard de Sébastopol avec des frites que je n'aurais pas faites moi-même. Je me demande si Daniel Blanchard avait réalisé que nous vivions dans un trou à rats, que j'avais un rond de gaz dans le couloir qui servait d'entrée, pas d'eau chaude, pas de lavabo, et des tas d'autres commodités manquant. Bon, bref, lui, je ne sais pas qui lui préparait le bœuf en daube et le navarin d'agneau, mais pour nous, le poulet rôti et les frites de coin, avant la malbouffe, à l'époque où il n'y avait pas de poulet de batterie, c'était la fête. Et j'avais certainement prévu pour lui quelques très bonnes bouteilles de Bordeaux de l'épicière de la rue Quincampoix. S'il veut savoir pourquoi il a été exclu, ce pauvre crétin, c'est parce que Guy, dont c'était aussi le préféré, voulait qu'il devienne situationniste, et que quand il a vu que Daniel resterait, que Tranchouers resterait social barbare, avec Cornelius, Castoriadis, avec Cornet, eh bien il s'est fâché avec lui en pensant qu'il n'y avait rien à en tirer.
D'une révolte artistique et littéraire.
On a tout dit, tout ce qu'il y avait à dire. Et épiloguer là-dessus est futile, d'ailleurs contre-productif en plus, car dès qu'on commence à faire des gloses sur quelque chose, on le complique. Regardez le Bible ou le Coran, dès qu'on fait des notes dans les marges, ça devient des horreurs.
C'est vrai dans la mesure où quand Ralph dit ça, la critique situationniste, au-delà de la participation de Ralph Romney, parce que Ralph Romney a continué sa vie et ses actions bien après son exclusion de l'Internationale situationniste, la critique correspondait aux besoins de l'époque. Mais depuis, l'époque a fait d'énormes progrès dans le domaine de la domination, où une partie de la critique situationniste et pertinente, il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes et on est contraint à partir de ces éléments de formuler une nouvelle critique en tenant compte de cela. Et ça se passe toujours comme ça dans l'histoire, dans les mouvements des avant-gardes, c'est-à-dire qu'il y a une pensée qui se développe et puis arrive une époque qui lui succède et des individus doivent formuler une nouvelle pensée et généralement il s'adosse à la pensée radicale de l'époque précédente en prenant ce qui est pertinent pour construire une pensée. Et c'est comme ça que le lien s'opère entre les différentes générations.
J'ai donc lu La Société Spectacle, en tout cas ce que j'étais capable d'en lire à l'époque. Ça a été un événement décisif, parce que ça a lancé une foule de lectures philosophiques, littéraires, sociales, à partir de là. Et je sais tout ce que je lui dois, c'est-à-dire que les 10 ans depuis ce moment-là, je les dois en grande partie à Debord, comme initiateur de quelque chose qui échappe. Je crois qu'il y a ça dans toute bonne œuvre. Ça crée des passerelles et des liens. Et voilà. Lui a un écrit sublime avec un sens pour chaque mot. Il essaye d'être absolument pas prisonnier du langage médiatique d'un moment, que ce soit qui travaille dans les années 50 ou tout au long de sa carrière, pas de sa carrière, de sa vie. Et c'est un des points qui le rattache à tous ceux qui l'ont suivi, que j'estime de qualité, que ce soit aujourd'hui la lettre de Tikkun ou l'encyclopédie des nuisances avant, ou de Agamben, ou de différents auteurs qui sont empreints de ça et qui écrivent avec une beauté de la lettre et un sens du mot.
Les dialogues répètent comme le néon leur vérité définitive. Je t'aime.
Ça doit être terrible de mourir.
Au revoir.
Tu bois beaucoup trop.
Que sont les amours enfantines?
Je ne te comprends pas.
Je savais. À une autre époque, je l'ai beaucoup regretté.
Veux-tu une orange?
Les beaux déchirements des îles volcaniques.
Autrefois.
Je n'ai plus rien à te dire.
Au sein d'une culture séparée.
Si Debord est tellement fasciné par la belle langue épurée du XVIIe, s'il cite tellement volontiers Bossuet, Pascal, Racine à l'occasion, eh bien, ça reste à mon avis la trace d'une éducation littéraire qui a été assimilée de manière parfaite à la culture classique scolaire qu'il a intégrée. De bord superpose une culture d'avant-garde qui se développe peu à peu. Il est allé au Manifeste de Breton et à l'Anthologie de l'humour noir, qui est une espèce déjà de petite compilation, qui est une parodie de manuel scolaire finalement. Et Debord, tout de suite, accroche à ça. Je pense que quand il a 20 ans, la connaissance de Sade qu'il peut avoir est très modeste, mais elle passe par l'image qu'en donne Breton dans l'Anthologie de l'humour noir. Même chose pour la fascination qu'il peut avoir pour Vacher, pour Isidore Ducasse, etc. Et ses intérêts se diversifient en fait de façon très progressive. Il se forge une culture marxienne, hegelienne, petit à petit, en piochant à droite et à gauche dans le meilleur de ce que lui apporte l'époque, finalement. Et il ne faut pas couper de bord de son époque et de sa génération. Et je pense que ça vaut particulièrement pour sa culture cinématographique, par exemple. Quel jeune adolescent qui, juste après la guerre, voit Les Enfants du Paradis, n'a pas été fasciné par ce film-là. Johnny Guitar, un peu plus tard, c'est aussi un film qui, dans les milieux intellectuels, reçoit un accueil très favorable parce qu'il conjugue les prestiges du western à quelque chose d'autre, d'un peu plus trouble, d'un peu plus étrange. Et clairement, pour ses choix cinématographiques, on sent qu'il est resté très attaché à ce qu'il avait fasciné à la fin de l'adolescence. Dans Injirumi Musnokte, en 78, certains des passages les plus beaux viennent de Johnny Guitar. Alors ça, c'est un peu plus tard qu'il l'a vu, il avait presque 30 ans, mais beaucoup de passages aussi des films de Carné, Cocteau également, une fascination de son adolescence, et on trouve des extraits de l'Orphée de Cocteau détournés dans Injirumi Musnokte.
Ainsi donc, au lieu d'ajouter un film à des milliers de films quelconques, je préfère exposer ici pourquoi je ne ferai rien de tel. Ceci revient à remplacer les aventures futiles que compte le cinéma par l'examen d'un sujet important, moi-même.
À détourner.
Il paraît que leur dernière trouvaille est de détourner les masses médias. Ces détournements m'inquiètent.
Ça, mon vieux, c'est le début de la fin. Ce qui m'inquiète le plus dans cette pratique, c'est qu'ils sont bien capables de faire des copeaux avec notre langage de bois, et même de la cire de bois. Faut faire attention. Que faire, comme disait Lénine? Oui, Lénine. On a beau être la classe dominante, on est souvent dans la merde.
Tous les éléments pris n'importe où peuvent faire l'objet de rapprochements nouveaux.
On a fait 3 films de détournement. Le grand détournement, c'est le 3e. Et on a remercié Guy Debord, je crois, les 3 fois. Pour être tout à fait honnête, tout est parti d'un jeu de mots affligeant. Pour le premier détournement qui s'appelait Derrick contre Superman, qui était fait à partir d'émissions de télé, de séries télé, on avait utiliser un extrait d'une série qui s'appelait Matt Houston. Et Houston, prononcé en français, devient Houston. Et on avait fait... c'est vraiment affligeant, je vous le dis, hein, mais c'était G de bord, donc Guy de bord, G de bord, Houston, ce qui donnait donc G de bord, Houston. Et donc voilà, donc tout est un petit peu parti de là, oui et non, parce qu'en fait, on était quand même fan de...
Ce que nous avions compris, nous ne sommes pas allés le dire à la télévision. Nous n'avons pas aspiré aux subsides de la recherche scientifique ni aux éloges des intellectuels de journaux. Nous avons porté de l'huile là où était le feu.
C'est l'histoire d'un stratège.
On a aussi un intérêt pour la stratégie au sens plus large. Donc après, il était, je pense, un des premiers lecteurs de l'œuvre de Balthazar Gracián, ce jésuite espagnol du XVIIe siècle, qui a donné beaucoup de règles comment se imposer dans le monde. Oui, parce que je pense que cela faisait partie peut-être... au niveau plus profond, une espèce de mentalité de joueur. Donc pour Debord, vraiment, le monde était une espèce de grande de jeu ou de jeu d'échecs. Je pense, de toute manière, il aimait aussi beaucoup jouer aux cartes, aux échecs et tout. Et donc, il voulait comment comprendre comment cette manière, comment réussir aussi à se faire valoir dans le monde. Et également, évidemment, son approche à la Révolution, c'était une tâche qu'il fallait mener à bien, donc aussi en prévoyant toutes les issues possibles et aussi toutes les réactions de l'adversaire. Donc, pour lui, même la Révolution était quand même essentiellement une espèce de sous-espèce de la pensée, de la pensée stratégique. Je pense... Il faut toujours se souvenir, je pense, une des clés pour comprendre Debord, ce sont les mémoires du cardinal de Retz du XVIIe siècle. Je pense que cela est très marqué, donc ces figures de quelqu'un qui a toute sa vie intrigué, organisé la fronde de révolution à Paris. Par une certaine manière, il a fait presque, pas pour ambition, mais d'une certaine manière pour s'amuser, donc pour vivre des choses extraordinaires. Et donc, Retz, il a dit, je pense, à la lettre à peu près, est-ce qu'il y a une chose plus grande au monde que la conduite d'une partie, il y a quand même, je pense aussi, l'idée quand même que lui, de certaine manière, peut-être, il voulait même jouer, de certaine manière, à la table des grandes, mais évidemment pas de manière vulgaire sur le devant de la scène, mais par derrière.
Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
Je préfère rester dans l'ombre avec ces foules plutôt que de consentir à les haranguer dans l'éclairage artificiel que manipulent leurs hypnotiseurs.
Ouais, vous auriez dû vous douter qu'il était en train de mener une partie.
La menait-il ou est-ce que c'était inconscient ou est-ce que, vous savez, on fait les choses sans... On se laisse sourire, on se... Quand je dis j'aurais dû me méfier, c'est une plaisanterie. Mais c'est vrai qu'à l'époque déjà, Guy avait tendance à aimer la stratégie et ce genre de choses. J'aurais dû me méfier quand on avait 20 ans, 22 ans, quand on s'est marié. Un garçon qui aime à ce point jouer avec les soldats de plomb, qui aime tellement Clausewitz, le cardinal de Ré, et ce genre de choses. Alors moi, c'était juste le contraire, parce que j'aime Bartleby, Tristram Shandy, ça, on sait. Comme des enfants qui se montrent leur jouet, Guy et moi, on s'est passé des trucs qu'on n'avait pas lus. Donc, mais je ne me suis pas méfié parce que je l'aimais tant, mais c'est vrai que c'était quand même inquiétant, parce qu'il adorait les soldats de plomb, et Clausewitz. Et Machiavel, et tous les gens, et Balthazar Gracián, et tous ces gens-là vous expliquent une seule chose, critique ou pas critique, mais c'est quand même comment réussir.
Tout ceci, il faut en convenir, n'est pas clair. C'est un monologue d'ivrogne, tout à fait classique, avec ses allusions incompréhensibles et son débit fatigant. Avec ses phrases vaines qui n'attendent pas de réponse, et ses explications sentencieuses, et ses silences.
À l'assaut de la société spectaculaire marchande.
À ma droite, le prolétariat. À ma gauche, sa représentation. Ce matin, elle a pesé à l'équipe. Le prolétariat avait le poids historique de la lutte inachevée. Sa représentation, le poids mort de l'idéologie.
Donc évidemment, il a fait ses lectures de Marx, il avait lu donc Histoire et conscience des classes de Georgi Lukács, qui était republié, donc ce livre de 1923, republié en 1960 en français. Donc il a lu surtout les hérétiques du marxisme, les conseillistes, donc Karl Korsch, en découvrant donc aussi qu'il existait aussi une autre Marx que celui de la tradition léniniste et stalinienne. Quand même, il y a quelque chose de particulier, ce que sa relecture de Marx ne part pas vraiment nécessairement d'une analyse de texte ou de sa genèse, donc il n'a donc rien de, on pourrait dire, de marxologique. Donc c'est une relecture assez libre qui justement, d'une certaine manière, à son point de départ, donne l'approche, d'une certaine manière, en sens très large, artiste du monde qui a des bords, ou la contestation, le dépassement de l'art d'origine surréaliste. Il est vrai qu'après les années 70, évidemment, le rôle de la pensée de Marx dans les œuvres de Debord semble diminuer, notamment. Mais il est vrai que même dans ses dernières œuvres, Debord dit toujours clairement que pour lui, la chose la plus importante qu'il a faite, c'était d'écrire la société du spectacle. Donc Debord, justement, parce qu'il avait une autre approche à Marx qui venait plutôt de ses racines littéraires et artistiques, je pense qu'il a su dire des choses que peut-être personne d'autre n'avait compris à l'époque-là. Donc il a redécouvert une autre Marx, le Marx qui essentiellement se base sur la critique de la valeur, de la marchandise et du travail. Donc le travail toujours si glorifié dans le mouvement ouvrier était évidemment critiqué par les situationnistes. Et déjà, donc, dans la société du spectacle, il décrit le spectacle juste comme la forme contemporaine de la marchandise. C'est aussi le sens de la toute première phrase de la société du spectacle qui reprend la même première phrase du Capital, seulement en remplaçant le mot marchandise qu'utilise Marx par spectacle. Et voulait peut-être écrire ce que Marx aurait écrit aussi en 1967, donc exactement un siècle après le Capital, si Marx avait écrit un autre Capital.
Bon, finalement, au fond, on était assez d'accord pour dire la vraie situation à créer, c'est la Révolution.
C'est un beau moment que celui où se met en mouvement un assaut contre l'ordre du monde.
Qu'as-tu à dire?
Bien, il y a aussi la radio, la télévision et tous les centres de communication. Comment peut-on les prendre?
Ne le dis pas ici. Soyons discrets, la rousse est dans la salle.
Enfin, ce que lui appelle le spectacle n'a pas grand-chose à voir avec l'appellation commune du spectacle. C'est pas le show business, c'est la représentation des choses. Ça va assez loin, ça va même dans le fait que... Avoir des tomates toute l'année, par exemple, ça veut dire qu'on a des idées de tomates. C'est-à-dire qu'on n'a plus des tomates. On a des choses qui ressemblent à des tomates, qui ont vaguement le goût de la tomate, mais qui ne sont pas réellement des tomates. Des gens qui font semblant d'être intelligents, qui ne le sont pas forcément. Bon, voilà. Donc, cette espèce de constat-là d'un monde représenté qui remplace le monde réel, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai cru comprendre, hein, quoi. Voilà, grosso modo.
Vous mourrez exactement comme vous.
C'est la chose la plus courageuse qu'une tomate ait jamais faite.
J'appelle la police.
Appelez les flics.
Oh, à vos tronches de geek.
C'est la chose la plus courageuse qu'une tomate ait jamais faite.
Ça, c'est bien vrai.
Après tout, peut-être que les tomates ne sont pas toutes avariées.
Ouais.
Contre ses agents.
Le spectacle, la forme contemporaine qui a pris le capitalisme à partir des années 20 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale et donc dans l'époque que nous appelons le 30 glorieuse. Et donc l'essentiel du spectacle est la séparation entre les acteurs et le spectateur. Donc ça veut dire qu'il y a donc une minorité de personnes qui agissent, qui prennent la décision et des autres qui sont condamnés à regarder approuver. Parce que ce n'est pas seulement en politique, mais en général, cela se retrouve par exemple dans la vie quotidienne ou par exemple le spectacle au sens plus étroit, le cinéma, le théâtre, etc. Par exemple, représente un usage intensif de la vie qui en vérité en même temps est nié aux spectateurs dans la vie réelle. Donc c'est aussi une fonction de compensation et de projection. Effectivement, Debord ne donne pas une définition univoque du spectacle, mais il en donne beaucoup, parce que justement, le spectacle n'est pas identifiable avec un élément précis de la société, et surtout, il dit que les mass médias ne sont que sa manifestation la plus visible et la plus écrasante.
De la politique, encore et toujours, avec vous, c'est normal, dans ce climat plutôt étrange, qui surprend quand on a pris un peu de recul, à la fois serein, étendu, sans vraies empoignades politiques, mais avec des propos plutôt pointillistes.
Guy Debord, Son art et son temps, 1994.
La situation reste quand même préoccupante.
Quelqu'un qui est une grande journaliste française, mais certes aussi un peu belge, mais certes aussi une grande journaliste spécialisée dans les questions de réflexion sur l'Europe, sur le monde, les affaires étrangères en l'occurrence. Et c'est donc une de nouvelles collègues qui arrive ici, j'espère pour longtemps, c'est Christine Ockrent.
Qu'on me cite un exemple d'un journalisme qui a commencé une carrière dans ce que vous appelez l'impertinence, la contradiction, le non-consensus, et qui n'ait pas été soit passé aux oubliettes, soit récupéré. Il n'y a pas d'alternative. Le système rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Si vous restez, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Jamais.
Forum, France Culture lance une nouvelle ligne, non pas de vêtements, mais de forum.
Non, pas de vêtements. Oui, nouvelle réjouissance et à l'occasion des frimas de l'hiver qui nous sont tombés dessus.
L'image du jour, une France quasiment paralysée par les intempéries au nord et à l'ouest.
Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là.
Tu veux du chiffre? Tu veux du chiffre? C'est ça que tu veux, hein? Tu m'as pas cru. Tu crois que je déconne? C'est pas l'école, c'est dans la rue que j'ai appris à compter. 2, 1, j'prique moi à l'enfance. 2, 3 fois plus de raisons de pas te finir à 4 potes. Ma vie c'est 5 piliers, le triple 6 insiste pour nous plier. Faut que j'fasse mes 7 tours, rester gravé comme à 8 mais c'est tout. Rien de neuf mec, j'te le dis, j'reste attentif aux 10 commandements. Hein, que tu trembles, hein, tu flippes quand t'enlèves tes tours comme en septembre.
Contre sa puissance intégratrice.
Est-ce que c'est public le chiffre de vente du fonds de bord à la BNF ?
Oui, tout à fait. Il avait été diffusé dans la presse même à l'époque. L'acquisition, c'était 2,7 millions pour l'ensemble du fonds, oui, tout à fait.
D'accord. D'euros ?
2,7 millions d'euros, oui. Ah, okay. Oui.
Moi, je trouve ça assez grotesque. Pour ça, je vous disais, je me demande si je ne vais pas essayer de lancer une pétition pour que le transfert des cendres de Debord au Panthéon.
J'ai trouvé l'exposition que j'ai vue. Enfin, j'ai vu Emmanuel, j'ai vu Laurence et puis j'ai le catalogue. Je la trouve une bonne surprise. Ça aurait pu être bien pire. Je trouve que c'est plutôt bien fait.
C'est même plus de la récupération. Je crois que c'est devenu presque une sorte de panthéonisation comique. Enfin, il y a là quelque chose de tragique, au fond comique, tragique à la fois. C'est quelque chose d'hallucinant. Et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Depuis la mort de Debord, il y a eu une espèce de phénomène comme ça, d'agrégation de Debord, où tout le monde s'en réclame, tout le monde le trouve génial, tout le monde l'adore, les institutions se prosternent devant l'homme qui a craché sur toutes les institutions. Et là, je me demande comment gérer ça. Moi, je dois dire que puisque de ce point de vue-là, Debord devient une sorte de produit de lessive, bientôt des t-shirts, enfin, voilà, comme les autres, quelque part. Et en même temps, je voyais en lisant, par exemple, le catalogue de l'exposition de Guy Debord, Un art de la guerre, il y a là comme la volonté de faire de Debord une sorte de gauchiste 68-art. C'est éditorialisé de façon presque maoïste, on pourrait dire, vous voyez, faire sauter les ponts, l'art de la guerre, vous voyez, on est la société sans classe, a trouvé son artiste. On est dans des espèces de slogans qui, à mon avis, ne correspondent pas à ce qu'a été Debord tout au long de sa vie. C'est Debord en 68.
L'exposition à la BNF, si je ne me trompe pas, succède. L'exposition de Guy Debord succède à l'exposition à l'exposition précédente qui était consacrée au Rothschild et précède, et je trouve ça extraordinaire, une exposition sur Astérix. C'est parfait pour moi. C'est-à-dire, de bord passe, Astérix arrive.
Moi, je pense qu'il faut pirater, magnétoscoper, il faut refaire une culture, il faut faire des bibliothèques, il faut faire des abbayes de Thélème, il faut s'organiser. Il ne faut pas dépendre des gens qui ont les droits à des films, il faut les piquer. La télé étant nulle, est obligée de passer des films, et donc il faut en profiter.
C'est le dialecticien, tu viens pas voir les camarades ?
Petit gars, je voudrais que tu dises à tous les camarades, ce qui se perd en contestation partielle rejoint la fonction répressive du vieux monde, t'oublieras pas ? Il faudrait aussi une insurrection dans les pays capitalistes. Tous les pouvoirs se renforcent.
Il faut donc détruire tous les pouvoirs ? Ça me rappelle la Première Internationale.
1968, elle explose.
Rud Ulm, il était très présent, il a fait des très bonnes choses, je trouve. Il a essayé vraiment de remettre en ordre, en désordre, tout ce qu'il y avait de films. Et il faut dire que c'est très clair que les textes, mais ça, c'est assez connu que les textes de 68 sont des textes de lettristes et situationnistes, sous les pavés, etc. Et ça, il faut dire que c'était un élixir d'une façon, pour, en tout cas pour moi, et pour beaucoup d'autres.
Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Bien entendu, tous les intérêts, toutes les tendances, tous les désirs ne seront pas comblés l'année prochaine.
Alors le 1968 tel qu'il est traité aujourd'hui dans toutes les sphères médiatiques ou universitaires doit finalement rien à Guy Debord, mais le vrai 1968 tel qu'il a eu lieu à l'époque, doit à peu près tout à ça. Aujourd'hui, pas mal de personnes laissent croire que mai 68, c'est un retournement des valeurs, une révolution sociale, voire bourgeoise, qui précède l'été. Et cette idée fausse et archi-fausse est aujourd'hui matraquée, relayée aux dates anniversaires. Mai 68, par Debord, c'est un mouvement qui est initié dès le début de sa carrière, dès son activité internationale lettriste. C'est l'idée du dépassement, d'amener la vie dans une sphère inédite. C'est la transformation de la vie, pour le dire tout simplement. Et en quelques jours, une poignée de personnes arrivent à procéder à un retournement et à la création d'une communauté autour d'un mouvement qui dépasse de loin le phénomène étudiant et à emmener la société toute entière dans un renversement qui aurait pu donner la transformation escomptée, mais qui a été victime en quelques jours de la récupération immédiate par syndicats, Parti communiste français. Et cette récupération-là va désactiver immédiatement la puissance mise en place. Et en réalité, mai 68, mi-mai, est relativement bien enterré. Depuis, pour la postérité, les quelques-uns qui ont lancé des pavés sont devenus pubards, politiques, personnes à qui on a relégué la sphère spécialisée, pour le coup, des activités culturelles. On leur a dit, laissez la politique à l'activité spécialisée des hommes politiques et occupez-vous du culturel. C'est là où les artistes pourront s'exprimer, c'est là où vous pourrez changer la vie au niveau de l'art. C'est ça le mai 68 dont on nous parle aujourd'hui et c'est très 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 loin du mai 68 initié par Debord.
C'est un budget de compte pour le redressement du pays. C'est donc un budget de compte populaire. Et par contre, c'est vrai que nous demandons un effort au plus con. Donc c'est bien un budget de compte qui paieront plus. Mais c'est un budget de compte citoyen et c'est bien un budget de compte français. C'est le sens de ce budget. C'est un acte politique majeur. C'est un acte de conf. Et ensuite, nous dégageons du pays. Merci.
Finalement, nous sommes tous de pauvres cons. Donc, et je pense, je me suis aussi demandé pourquoi à la fin de Guy Debord, son art, son temps, on voit ces images plutôt apparemment presque insignifiant des puissants de la terre qui rentrent au sommet donc à Naples. Mais je pense, ils voulaient probablement dire que même les plus puissants, les personnages plus en vue de son époque, n'étaient finalement que des pauvres cons. Donc, en même temps, il y a quand même. Donc, chez les bons, une espèce d'admiration aussi pour certains personnages du passé et même pour les personnages pour lesquels, en général, ils n'éprouvent pas nécessairement de l'admiration dans un milieu d'émancipation, par exemple des généraux ou d'autres puissants.
Putain, mais ça vaut pas ça. Et merde, je suis obligé d'acheter alors que ça baisse. Allez, Inch'Allah.
Il ne restera donc plus qu'à prier. Prier, c'est l'objet d'un mail qu'a reçu cette jeune courtière. Traduction de cette dépêche en fait tombée hier midi.
Cette crise financière globale montre juste la futilité de l'argent et de l'ambition.
Selon
le pape Benoît XVI.
Eh ben, prière ou pas, à Paris, le CAC 40 a vécu la journée la plus noire de son histoire, moins 9% du jamais vu depuis la création de l'indice en 1988.
Vous n'avez pas eu les dernières informations, donc si vous me posez une question sur les dernières informations, j'y répondrai. Si vous me posez une question sur ce qui s'est passé vendredi, c'est vendredi.
Eh ben, Moody's, alors, que pensez-vous de la...
Non, formulez une question, je n'ai pas... Moody's, ça ne veut pas dire grand-chose.
Est-ce que vous pensez que Moody's fait peser, après Standard & Poor's, une épée de Damoclès sur la politique française, la politique économique française?
Je ne comprends pas cette question, excusez-moi. Si quelqu'un veut me poser une question que je comprenne, j'y répondrai bien volontiers. Je ne comprends pas votre question.
Alors LCI, ce sera une chaîne d'information continue, c'est-à-dire qui émettra en permanence. Ce sera une chaîne d'information permanente. Ceci veut dire que lorsqu'un événement le justifiera, eh bien, nous prendrons l'antenne et nous la garderons tout le temps nécessaire. Grande fluidité au service de l'information. Et enfin, ce sera la chaîne du libre débat. 5, 4, 3, 2, 1, top LCI.
Briser l'identification psychologique du spectateur au héros pour entraîner ce spectateur à l'activité en provoquant ses capacités de bouleverser sa propre vie. La situation est ainsi faite pour être vécue par ses constructeurs. Le rôle du public, sinon passif, du moins seulement figurant, doit y diminuer toujours, tandis qu'augmentera la part de ceux qui ne peuvent être appelés des acteurs, mais, dans un sens nouveau de ce terme, des viveurs.
Je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Tant qu'on brûlera les voitures, on verra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif.
Oui, on a braqué, oui, on a fait ça, oui. Est-ce que c'est plus moral d'ouvrir une banque ou de l'attaquer? Nos défaites ne prouvent rien, si ce n'est que nous étions peu nombreux pour lutter contre l'infamie. Nous attendons que ceux qui nous regardent avec des yeux de spectateurs, que ce soit eux qui aient honte de ne rien avoir fait.
La fin, jouir de la vie quotidienne.
Est-ce que vous étiez motivé ce matin pour dire « je vais décrocher ce job » ?
J'avais envie de travailler comme j'ai toujours envie de travailler. C'est pas que j'ai pas fait d'efforts, c'est que je me suis dit tout le monde ici a le droit de travailler. Il y a des gens qui sont peut-être encore plus dans le besoin que moi.
Mais on doit laisser la chance à tout le monde. Répondez à la question simplement, oui. Pourquoi est-ce que vous nous avez pas donné envie?
C'est à vous de vous montrer.
Oui, c'est à moi de me montrer percutant, honnête.
Non, vous. C'est à vous de nous montrer vous. D'accord.
Vous avez fait quoi cette nuit? Cette nuit, alors là, on a vu un géant de 10 mètres lire l'avenir dans une énorme boule.
Oui, et puis le géant est devenu tout petit à côté d'un immense bateau.
Oh, tu te rappelles quand le bateau a échoué près du volcan?
Oui, et quand le volcan s'est transformé en île mystérieuse.
Vous êtes sûr que ça va tous les deux?
Ah, mais je te le jure que c'était une île.
Les nuits fantastiques du loto, n'attendez pas qu'on vous les raconte.
Les nuits fantastiques du loto, spectacle gratuit ce soir à 22h30 au Touquet, parking Aqualude.
On s'est demandé... La vie privée est privée de quoi? Tout simplement de la vie qui en est cruellement absente. Les gens sont aussi privés qu'il est possible de communication et de réalisation d'eux-mêmes. Il faudrait dire de faire leur propre histoire personnellement. Les hypothèses pour répondre positivement à cette question sur la nature de la privation ne pourront donc s'énoncer que sous forme de projets d'enrichissement. Projet d'un autre style de vie, en fait d'un style. On a admis ici qu'il fallait étudier le temps perdu. Mais voyons le mouvement récent de cette idée de temps perdu. Pour le capitalisme classique, le temps perdu est ce qui est extérieur à la production, à l'accumulation, à l'épargne. La morale laïque, enseignée dans les écoles de la bourgeoisie, a implanté cette règle de vie. Mais il se trouve que le capitalisme moderne, par une ruse inattendue, a besoin d'augmenter la consommation, d'élever le niveau de vie, si l'on veut bien se rappeler que cette expression est rigoureusement dépourvue de sens.
Comment il va falloir lutter à l'avenir, parce que voilà ce qui est en route. La société modernisée jusqu'au stade du spectaculaire intégré se caractérise par l'effet combiné de 5 traits principaux. Ce sont le renouvellement technologique incessant, la fusion économico-étatique, le secret généralisé, le faux sans réplique et un présent perpétuel. Il y a des rendez-vous avec des choses du passé, des moments à ne pas manquer. On vit, à mon avis, aujourd'hui, avant d'être totalement démunis, un des grands moments où il faut savoir lire l'œuvre de Guy Debord. Peut-être moins la mettre en vitrine que la lire. On ne peut pas lire aujourd'hui ou s'intéresser à Debord, le reposer sur sa table basse et puis passer à un autre livre. C'est pas possible.
Le fait qu'il soit toujours là, est-ce que ça signe pas en quelque sorte une forme d'échec ou...
D'échec, d'impuissance, c'est-à-dire en fait vous reprochez et vous vous demandez à quoi bon toute cette critique puisqu'elle n'a rien changé. C'est vrai. Et c'est faux, c'est-à-dire elle n'a rien changé d'une certaine manière. Nous sommes dans un monde avec la domination que nous connaissons qui est encore plus performante qu'elle ne l'était il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 40 ans parce qu'elle est devenue extrêmement insidieuse et elle se diffuse dans tous les pores de la vie d'un individu et dans son monde social de façon inégalée. Mais aussi... Il y a quand même, me semble-t-il, quelque chose qui fonctionne. Par exemple, le fait de vouloir faire quelque chose d'autre et de différent sur le sujet, c'est qu'on ne voudrait pas que ce soit totalement phagocyté dans quelque chose de très officialisé et qui serait vide de sens.
Vivre pleinement, c'est inatteignable. C'est un rêve prométhéen, c'est le rêve libertaire par excellence. Vous savez, Debord disait « Pour moi, le communisme, c'est le voyage au bout de la nuit pendant la grève générale ». Ça dit bien les choses.
Une sorte d'accomplissement du titre « In girumimus nocte et consumimur igni ». Nous tournons en rond dans la nuit et nous nous consumons dans le feu.
Now get up.
Avec.
Les participations volontaires et involontaires de... Guy Debord, Romain de Bec-de-Lièvre, Christophe Pourcellier, Boris Donnet, Michel Bernstein, Michel Azanatius, Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Michel Mancion, Ralph Romney, Daniel Blanchard, Gérard Benedou, Augustin Dapitel, Attentatif, Anselme Nerveux, Charles de Gaulle, Système, Christine O'Clent, Olivier Poivre d'Arvor, Michel Naudy, Marc Blanchet, Sandrine Trainer, David Pujadas, Laurence Lebras, Serge Danet, Jacqueline de Jong, Thibaut Cavaillès, Nicolas Sarkozy, Pierre Bourdieu, Macaque, Hugo Dimitri, Francis, Phil Ducomo et Philippe Baudouin.
Une vie, une œuvre, Guy Debord, Isabelle Huel, Thibaut Henton, mixage, Philippe Bredin, Archivina, Stéphanie Placé, attaché d'émission, Laurent Genepin.
Je suis persuadée que les mômes de 20 ans qui sont comme nous, s'il y en a, et il y en a sûrement, moi bien quand on avait 20 ans, personne ne nous connaissait. Et personne ne savait si nous allions boire un verre chez Paco à Aubervilliers ou dans les Halles. Personne ne savait. Je n'ai jamais dit quand je travaillais que j'étais situationniste, par exemple, ou que j'étais la femme de Guy Debord. Surtout pas. Bon, mais de la même façon, s'il y a des gens maintenant qui font des choses aussi passionnantes ou intéressantes que ce que nous faisions à l'époque, donc on ne les connaît pas. Et nous ne savons pas où. Mais statistiquement, je pense que c'est possible. Et même probable. Non ?
À reprendre depuis le début.
C'était Une vie, une œuvre, Guy Debord, 1931-1994. Un grand merci à Thibaut Henton et à Isabelle Huel pour cette émission que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez pour la conserver. Et puis je vous rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à nous y rejoindre afin de rester en contact avec nous durant la semaine. Samedi prochain, en marge de l'exposition Nouvelles impressions de Raymond Roussel au Palais de Tokyo, nous parlerons de cet écrivain et poète français, également inventeur du camping-car. Enfin, si l'on peut dire, vous entendrez tout cela. Allez, je vous laisse en compagnie d'Augustin Trapenard pour le Carnet d'Or. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.